Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Haïm Sitruk. Bonne écoute et bon limoud.
J'ai choisi de vous parler ce soir en résumé, bien sûr, d'un thème fondamental que j'ai intitulé la pédagogie de la fraternité. Je m'explique. D'abord, le cadre général. Toute la Torah, je dis bien toute la Torah, est fondée sur une idée. Comment faire pour que deux frères puissent vivre ensemble? Tout le livre de Bereshit, qui est appelé dans la Torah Maaseh Avot, les agissements des ancêtres, des pères, des patriarches, présente successivement toutes les fraternités avortées, échouées. Au début, Dieu crée l'homme et la femme. Ils ont deux enfants, donc deux frères. Il y en a un qui tue l'autre. C'est l'échec le plus abominable, le premier, le plus grave. Caïn tue Hevel. Les frères se sont, du moins l'un a assassiné l'autre. Il ne manquait pas de place. Le monde entier pour deux hommes. Il ne manquait pas de nourriture. Il ne manquait de rien. C'est cette haine gratuite qui va rester la plaie de l'humanité et que la Torah va nous apprendre à combattre. Et là commence l'histoire. Ensuite, peu à peu, vont arriver les Avot. Dès que Abraham Avinu a deux fils, Yitzhak et Ishmael, c'est la guerre entre eux. Et ça ne marchera pas. Quand Yitzhak, à son tour, aura deux fils, des jumeaux, Yaakov et Esav, ça ne marchera pas. Quand Yaakov, à son tour, aura 12 fils entre eux, ça ne marchera pas. Ils voudront tous tuer Yosef. Et là, point d'une solution. La Torah dit à propos de son expérience en Égypte, qui va commencer d'abord par une recherche. Son père lui dit, va voir comment vont tes frères dans les champs. Et Yosef va se rendre là où se trouvaient ses frères, dans les montagnes où ils étaient allés faire paître les troupeaux. Et quelqu'un le rencontre, Toré Bassadé, et rentre dans les champs. Il demande qu'est-ce que tu cherches. Et il leur répond cette phrase, qui est notre devise, et Tahaï Anochi Mevakesh. Je suis à la recherche de mes frères. Pourtant, l'histoire n'est pas finie. Plus tard, Yosef devient vice-roi d'Égypte, doté de tous les pouvoirs exécutifs du plus grand pays du monde. Et puis un jour, ses frères viendront le retrouver. Et la Torah dit alors, et Joseph les reconnut, Vehem, Loïc, Giron, et eux, ils n'ont pas reconnu. C'est un cri tragique. On ne parle pas du tchat. Yosef avait vieilli. Il était habillé en égyptien. Ils étaient à mille lieues d'imaginer que là, ce roi était leur frère. Mettons de banquer ce tchat, un micro-yosef des tchudom, pour finalement lui donner l'écho qui est le nôtre ce soir. Yosef voit ses frères. Il continue de les aimer, de les chercher, et eux ne le retrouvent pas. Et puis, viendra le plus beau moment, le plus grand, celui sur lequel la Torah va tirer le rideau du livre de Béréchit de la Genèse. Yosef, justement, va avoir deux fils à son tour, Ephraïm et Ménaché. C'est bien connu de tout le monde. Et puis Jacob, arrivant à la fin de sa vie, Yosef lui présente ses enfants pour qu'il les bénisse. Et il place Ménaché, l'aîné, à la droite de son père. Il la pose sa main droite sur l'aîné. Ephraïm, le plus jeune, à la gauche de son père. Il reçoit la Béracha en deuxième. Yaakov croise les mains. Yosef a peur. Il dit, non papa, je t'en prie. On a déjà assez souffert depuis la nuit des temps de la jalousie entre deux frères. C'est l'autre l'aîné. Et Yaakov sera, dit à son fils, Yadat, béni, Yadat. Je sais mon fils, je sais. Lui aussi deviendrait grand. Mais celui-là, parlant de Ephraïm, deviendra plus grand que son frère. Il n'empêche que Yaakov a béni Ephraïm d'abord et Ménaché après. Or, mes chers amis, je disais que la Genèse s'achève sur cette image, pourquoi? Parce que nous tous, notamment le vendredi soir, à chaque occasion, quand nous bénissons nos enfants, nous disons quoi? Et Simcha Elohim Kefraim Bechim Naché. Que Dieu te rende semblable à Ephraïm et à Ménaché. Pourquoi les avoir choisis à eux? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Pour nous signifier que la plus belle chose qu'on puisse souhaiter à nos enfants, c'est d'accepter la place de l'autre. Même si on n'est pas le premier, ça a été la grandeur de Ménaché. Ménaché l'aîné, qui aurait pu, comme Esav, vouloir tuer son frère, l'éliminer, lui faire du mal, le jalouser, n'en a rien fait. Il a accepté que Ephraïm passe devant lui. Mes chers amis, mesdames et messieurs, si on a compris ça, l'histoire peut commencer, et d'ailleurs elle va commencer. Tout de suite après cette scène magnifique, la Torah, avec une grande sérénité, aborde l'histoire des Béné Israël, créer les schémas de Béné Israël, et commence les autres livres de la Torah. Pour nous dire en résumé, que ce point-là est donc l'essentiel. Acquérir ce point, c'est pouvoir ouvrir la Torah et la vivre. Trouver la place de l'autre, c'est trouver la sienne. Et un enseignement que j'aime beaucoup, dans la Gemara de Sanhedrin, page 19, dans laquelle la Gemara énumère, en citant le fameux Eshet Chaï, le chapitre 31 de Michelet, du livre des Proverbes, et en donnant à chaque verset le nom d'une génération, et j'ai traîné ça, etc., chacun exprime une génération dans laquelle on a étudié la Torah. En commençant par Moshe Rabbeinu et Yoshua et tout le monde. Arrive le dernier verset, le plus grand. Isha ira tachemi italal, mais la femme qui craint l'Éternel, elle est digne de louange. Et la Gemara dit, Zedoro, chez le Rabbi Yehuda ben Aïlai. C'est la génération d'Arama de l'époque du Talmud qui s'appelait Yehuda ben Aïlai. Surprenant, qu'avait-elle de spécial? La Gemara répond, elle dit, chez Ayoum, Shishat al-Midim, Mitkassim, Talit Achat. Dans les Shiva de cet homme-là, ils étaient Rachidim, Benéchayou, Anim. Ils étaient très pauvres. Et quand les enfants de la yeshiva allaient se coucher, ils étaient obligés de dormir 6 enfants dans un même lit, avec un drap pour les couvrir. Le Rav Chaim Shmulevitch, c'est mon nom de bracha, pose la question, comment c'est possible? Comment c'est possible que 6 enfants soient capables de se couvrir avec un seul drap? Et il répond, là est la réponse de cette Gemara. Elle voulait dire que dans cette yeshiva, chaque enfant, avant de se couvrir, autrement quand dans un lit il y a 2 petits enfants, chacun tient la couverture de son côté et découvre son frère dans cette yeshiva, et bien chaque enfant se demandait si l'autre était couvert, alors qu'ils étaient tous couverts. Et le Rav, qui a vécu, qui est mort après la dernière guerre, a vécu cette épopée unique, qu'on appelle l'épopée de Shanghai. Voilà, mes chers amis, l'histoire étrange, surprenante, unique, d'une yeshiva, installée avant la guerre en Europe centrale, qui voit déferler sur la Russie et la Pologne, malheureusement, la machine terrible du nazisme. Et le rouleau compresseur s'étend, massacrant, tuant la quasi-totalité des Juifs de ces régions. Combien de grands yeshivot ont disparu, du moins physiquement? Combien de rabbinim ont été exterminés? Combien d'enfants ont été tués sans pitié de toutes les plus grandes yeshivot qui, heureusement, après la guerre, devait revivre en Israël? Des noms comme Poniovitch, Lobotka, Mir, je reviens à Mir, sont des noms qui revivent aujourd'hui. Ce ne sont pas des petites bourgades de Pologne ou de Lituanie, ce sont de grands yeshivot. Mais il y en a une et une seule, qui est la yeshiva de Mir, une petite ville, qui a été intégralement, c'est inouï, épargnée. 400 élèves, leurs rabbinim et leurs familles ont réussi, dans des conditions uniques, à fuir l'envahisseur nazi. Ils se sont retrouvés en Extrême-Orient, Shanghai. Et là-bas, dans une grande synagogue qui avait été construite et délaissée, ils se sont installés pendant des années. Ils ont étudié la Torah. Ils ont dû cette survie d'un point de vue humain. Bien sûr, l'autre point de vue, c'est le principal, c'est celui de Hachem. Aux consuls du Japon, qui on ne sait pas pourquoi, apparemment, s'est inquiété de leur sort. Elle leur a donné à tous des passeports qui leur a permis de passer la frontière comme des sujets d'un pays d'Extrême-Orient et d'arriver là-bas. Mais l'histoire ne finit pas ici. En 1946, à la fin de la guerre, avant la création de l'État d'Israël, les survivants vont s'installer à Jérusalem. Ils y installent devant une yeshiva qui porte le même nom du petit village de Mir. Et là-bas, cette yeshiva s'est développée, bien énorme. Kenirbu, elle compte aujourd'hui, tenez-vous bien, 5000 avrefim, c'est-à-dire personnes qui étudient la Torah à plein temps avec le rabbinim. Il n'y a aucun bâtiment assez grand pour les abriter. Dans Jérusalem seulement, elle comporte 7 bate midrashot, tous pleins à craquer. Et le Rav Shmulevitch écrit dans ses œuvres, si je crois que nous avons dû notre survie à cette même dimension. À la yeshiva de Mir, on n'était pas riche là-bas en Europe centrale. Mais tous les élèves Vous avez l'attention de l'autre, la préoccupation de l'autre. Jamais il se servait à manger au réfectoire avant de savoir si les autres avaient à manger. C'est peut-être ça, dit l'honorable, qui nous a sauvés et qui nous a donné cette chance inouïe de voir la providence divine s'exercer de façon tellement visible dans nos générations. Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience personnelle très bouleversante. Après mon accident, j'avais beaucoup de mal à me concentrer. Et j'arrivais d'abord péniblement, pendant quelques mois, à faire ma prière en entier. Puis après à lire les Tehillim. Puis après à lire du Chumash. Et quand je suis arrivé à la Gemara, blocage. Et ça a duré 2 ans et quelques. 2 ans et 3 mois, très précisément. Et voilà qu'un jour, c'était le 1er mars, je n'oublierai jamais, dans quelques jours c'est l'anniversaire, 2004. Je me suis rendu à Jérusalem, loin de mes fils, Baruch Hashem, Yitzhak, étudier à la Yeshiva de Mir. Et j'ai passé quelques jours en sa compagnie. Et mon fils m'a dit, papa, tu sais, tu vas venir étudier avec moi, je suis très heureux, mais là-bas, il n'y a pas de piston. Je ne crois pas que tu aurais une place. Grand rabbin, petit rabbin, ils ne connaissent pas. Il n'y a que des grands. C'est une yeshiva, mes chers amis. Dans ce Beit HaMidrash là, le plus ancien, où il y a près de 800 personnes qui étudient. Il n'y a pas de place. Ils sont assis, je ne sais pas combien, sur un banc. Ils sont assis par terre, sur les escaliers. Ils sont assis dans les Ezrat Nashim, partout. Il n'y a pas de place. Et moi, j'ai dû, à la gentillesse d'un Tanmin d'origine de France, Shlomo Nadan, qui m'a laissé sa place. Pour moi, je n'avais pas de place. Et je suis resté là-bas quelques jours. Il y avait là-bas un très grand maître. Vous allez voir pourquoi je raconte cette histoire, pas pour raconter ma vie. Il s'appelle Zvi Chaïchin, un homme qui n'a pas de titre comme tous les grands hommes. Et avec qui mon fils me dit, papa, c'est un rab qui est formidable. Il connaît tous les sujets, mais il est tellement débordé. Il étudie 18 heures par jour, tous les jours. Je ne sais pas s'il pourra étudier avec toi. Mais mon fils m'a dit, je vais lui demander s'il peut te consacrer sa vie. Et ce rab a eu la gentillesse d'étudier avec moi. Tous les jours, pendant une semaine, 1 heure, je me suis régalé. Et je lui ai posé une question, entre autres. Je lui ai demandé, dites-moi, Rabbi, comment sait-il que le tombeau de Yosef, Tzadik, a été profané avec une telle sauvageté, Ashrem. Il me dit, comme ça, c'est marqué dans la Torah. Ah. Il me dit, regarde, le début de Shemot, va Yaakov, Melech Hadash en Mitzrayim. Et il y a eu un nouveau roi en Égypte, Asher Lo Yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef, premier chapitre, verset 8, je crois. Et il me dit, prends le passou, Asher Lo Yada et Yosef, sauf tes votes, les dernières lettres, ça fait le mot Arafat. Et cette expédition avait été malheureusement commandité par cet homme. Il a fait comme s'il ne connaissait pas Yosef. On est vraiment venu de ce que dans les pays musulmans en général, on vénère les tombes des tzadikim. On le voit dans tous les pays d'Afrique du Nord, en Égypte. Les tombeaux de nos maîtres sont respectés par les musulmans. Non seulement ils ne les cassent pas, ils les respectent. Ils les entretiennent. Et là, il y a eu une chose. Mais très honnêtement, si j'ai trouvé cette réponse, j'étais heureux, mais j'étais très malheureux. Comment est-il possible que Youssef Hatzadik ait subi un tel sort? Et j'ai voulu aller sur sa tombe. Or, malheureusement, depuis les accords d'Oslo, je crois que c'est 1993, Schreyer est une des villes qui est sous l'autorité palestinienne. Suivez bien. Les accords d'Oslo stipulaient, noir sur blanc, que la tombe de Youssef devait être entretenue par les Palestiniens et ils devaient en laisser l'accès libre. Hélas, il n'en est plus rien. J'étais en Israël il y a 15 jours et je me suis embêté, j'ai dit, il faut que j'y aille. Alors j'ai fait une démarche par le biais du Quai d'Orsay auprès de l'ambassadeur de la France en Israël pour demander si vous pouvez m'y rendre. L'ambassadeur très gentiment, c'est un homme d'ailleurs charmant, il me dit avec plaisir et d'ailleurs, le consul général de France vous accompagnera personnellement avec une escorte. Bon, moi j'étais content. Quelques jours avant, un de mes collaborateurs qui s'est présent, Eric Cohen, reçoit un appel disant que c'est pas possible. C'est trop dangereux. Après, j'ai su le fameux Schreyer est un des fiefs du Hamas. Et ceux qui devaient m'accompagner, c'est la police palestinienne. Ils ont eu peur. Et ils ont dit à l'ambassadeur, c'est trop dangereux. Heureusement, je suis du genre un peu têtu, et que j'avais fait une demande aux autorités israéliennes. J'ai obtenu l'autorisation de l'Iran. Il a fallu aller jusqu'à l'état-major, Sarah. J'ai obtenu une autorisation le mardi 28 janvier 2008, il y a donc un mois environ, d'y aller, mais on m'a dit il faut aller entre minuit et 3 heures du matin. C'est déjà une aventure. Eh bien, je dis d'accord. Je décide donc d'y aller de Jérusalem. On me dit, je demande est-ce que je peux être accompagné. On me dit, ok, 15 personnes. Je sélectionne parmi tous ceux qui avaient envie d'y aller, 15 personnes. Nous y allons. On arrive d'abord à un endroit qui s'appelle Elon Moreh, qui est un yishuv au-dessus de Schreyer. Là-bas, il m'a été demandé de donner un shiur à la yeshiva, une très belle yeshiva. Il y a 260 bachourim, et je suis arrivé là-bas vers 11h et quelques du soir, et j'ai donné un petit cours en hébreu à ces jeunes gens, et puis après on est descendu. On est arrivé dans un endroit israélien, à la bordure de Schreyer, qui est la Moetsa des Orites, et là, on nous a tous montés dans un bus blindé. C'était joint à nous des gens de Elon Moreh. On est tous installés dans le bus, montent trois gradés israéliens, des officiers de ça. Il y en a un qui nous demande s'il peut parler au micro. Je vous dis ça pour vous donner un peu l'ambiance. Qui était en fait, je l'ai su après, un colonel, qui était le chef de toute la région de la sécurité nord d'Israël. Un jeune homme de grande qualité. Il nous dit, écoutez, on va aller là-bas, mais je vous préviens, trois choses. Un, si vous avez des armes, il est interdit de s'en servir. Il n'y a que nous qui avons le droit de tirer. Je vous mets déjà dans l'ambiance. Deuxièmement, en arrivant là-bas, ne vous inquiétez pas, vous verrez des hommes qui sont tous à nous. En fait, il y a dit, Rouba, la majorité sont. Et il dit, troisièmement, en étant sur le lieu, on ne perd pas de temps, vous sortez vite du bus, vous allez sur le quai vert et vous remontez tout de suite. Bon, et puis on attend. Un quart d'heure, une demi-heure. C'est déjà minuit. Pour moi, comme j'étais si près de lui, je demande, excusez-moi, pourquoi cette attente? Il me dit, on fait un peu de ménage. En fait, j'ai appris, après, vous avez éliminé la route et posté des soldats dans des endroits stratégiques. Je crois que tout ça pour vous dire quoi? Dans quelles conditions on a pèleriné Yosef HaTzadik, notre frère? Et finalement, en sortant de ce Yishuv, de ce Moetzav, notre bus se voit encadré de 4 véhicules blindés de l'armée, de devant, de derrière le Giro, qui nous amène jusqu'au Marsod, jusqu'à l'entrée de la ville. C'est en fait un Mahané Pilkim, un camp de réfugiés palestiniens. Zone interdite. Et dans ce Marsod, il y avait une quinzaine déjà de soldats en tenue de combat, gilets pare-balles, casques, mitraillettes. Et là, on arrive à 10 minutes. Et là commence un véritable cauchemar. Pendant environ 10 minutes, notre autobus, avec son escorte, avance à travers une ville morte. Pas morte parce qu'il était minuit et demi et que tout le monde dormait. Une ville abandonnée, soi-disant entre les mains de l'autorité palestinienne depuis 15 ans. Non seulement ils n'ont rien construit, ils n'ont rien amélioré, mais tout était décrépit. Ce qu'on appelle un camp de réfugiés, c'est un peu comme un magasin. C'est des maisons entièrement fissurées, abîmées, des trottoirs pleins de détritus, une route pleine de pierres, une horreur, un cauchemar. Sauf, on arrive devant le quai. Là-bas, nous attendaient 6 véhicules blindés. Et au total, mesdames et messieurs, mes chers amis, il y a eu 60 soldats, une unité dédiée pour me permettre d'aller prier sur le quai vers Yosef. J'ai pensé au pasouk, inévitato jolishnomo, shishim, giborim, sabirla. Et en fait, j'ai demandé alors à l'officier en question, pourquoi tellement de précautions? 1h du matin, 60 soldats, il me dit, parce que, on ne veut pas provoquer la population, qui, si elle réagissait, nous obligerait à riposter. Je suis comme on imagine, l'incident diplomatique, etc., plus les victimes. Deuxièmement, il me dit surtout, le Hamas, il sait qu'on est là. S'il y avait eu quelques soldats, il y a des fanatiques qui auraient tenté quelque chose. Alors voilà comment j'ai pu, pour mon chef, on a fini comme prévu à 3h du matin, avant de rentrer à Jérusalem, etc. Je vous raconte ça pourquoi. Parce que là-bas, autour du quai vert, on a vécu un moment exceptionnel. Ils se sont retrouvés autour du quai vert Yosef, qui était, mes chers amis, une horreur, entièrement démolie, cassée à la masse, le monument, le mausolée, la tombe. Ils se sont acharnés sur la tombe. Il ne restait de la tombe que des pierres et du sable. On était vraiment à en pleurer. Ils ont brûlé, on sentait encore, les restes de l'incendie qui avait été provoqué. Aucun respect. Ça n'a rien empêché. Et là, entre 1h30 et 2h30 du matin, on s'est retrouvés, les rabbinim. Il y avait là un arabe grosse dont on a parlé, notre Arbedin au consultant central, qui était venu spécialement de Bnei Brak, que lui aussi est un grand fervent de Yosef HaTzadik, le Rosh Yeshiva de Enon Moré, Rav Levanon, qui est aussi un monsieur éminemment bien, et moi-même. Et puis il y avait la délégation de Enon Moré. Et puis on a chacun dit un mot, nous quatre. Puis un monsieur qui me demande s'il peut dire un mot. Il était tellement enflammé que j'ai dit d'accord. Je trouve que c'était le papa d'un jeune soldat qui était mort à la guerre du Liban l'année dernière, et qui a dit, comme ça, en pleurant, il a dit trois mots. Il a dit, je veux dire merci aux Romaniens qui m'ont permis de vivre cet instant. Depuis la mort de mon fils, je n'ai jamais éprouvé une émotion aussi grande. Et là, il y avait toute cette assemblée, entourée évidemment de tous les soldats. On se pressait dans un petit endroit, quelques mètres carrés. J'ai demandé à tout le monde de lire les Tehillim. On a resté le Kaddish. On a dit quelques tefillotes. Et dans les paroles de Torah que les Rabbanim et moi-même ont dit, il y avait le même thème que celui de ce soir. On prie pour que Yosef HaTzadik, notre ancêtre, prie pour le clan d'Israël, le peuple juif, que nous retrouvions entre nous la fraternité, qu'il n'y ait pas de division entre les juifs, qu'on ne se dispute jamais. On se rappelle du message pathétique de Yosef, quand vous le dites devant sa tombe profanée, à 2h du matin, dans les conditions que je vous ai décrites en détail, ça vous fait un autre effet. J'ai vécu, je voulais vous raconter à vous qui êtes proches, cette expérience extraordinaire. Et là, il y a eu alors le summum. Alors qu'on était tous comme ça émus aux larmes, il y a un des soldats qui commence à chanter, à lancer un chant. Eli, Eli, lama sabachthani. Tout le monde a repris en cœur. Et quel moment merveilleux, en pleine nuit, entouré d'ennemis hostiles, grâce à un générateur de l'armée qui avait éclairé notre assemblée. On a pu prier, chanter, tous ensemble, la gloire de notre Dieu, le souvenir de notre Père et l'espérance du peuple d'Israël. Je voulais vous raconter cette expérience qui est dans le droit fil de ce que j'ai voulu ce soir enseigner. Et je pense, mes chers amis, qu'on a tous, parmi nous, du plus grand au plus petit, une leçon à prendre de Yosef HaTzadik, de nous souvenir que lorsqu'il est né, Yosef, dès sa naissance, ne pas sur l'histoire, qu'est-ce que dit sa mère, il y a ici des mamans, qu'il y en a une qui me dise, si après l'accouchement d'un de ses enfants, elle voulait un autre fils tout de suite. Personne. L'accouchement n'est pas vraiment agréable. On a besoin d'oublier un peu. C'est la Guémara qui le dit. Dès que lui est né, Yosef, Rachel l'appelle Yosef. Et qu'est-ce qu'elle dit? Yosef Hachem dit Ben Rachel. Que Dieu m'ajoute à notre fils. En d'autres termes, dès que Yosef est né, il était le frère de celui qui devait naître. L'identité même de Yosef, c'est d'être le frère de l'autre. Voilà pourquoi j'insiste sur son exemple. Et voyez-vous, notre histoire, elle va démarrer dans sa collectivité. Dès que Yosef naît, à l'époque il était, Yaakov Aminou, son père, chez Laban, en Proust-Laretz. Dès que Yosef naît, il dit à sa famille, nous allons en Israël. L'histoire peut commencer. Et là, nous en arrivons à la conclusion de la Torah, quand Yosef a lui-même des enfants, son père lui dit, Réophanecha l'ophilati, je n'espérais même plus te voir. Et voilà que Héra et Hachem, ton Dieu m'a montré tes propres enfants, on peut ouvrir le rideau de nouveau sur l'exil d'Israël. Mes chers amis, quel est le danger de la galoute, malheureusement? C'est de ne plus rester des frères, de nous éloigner les uns des autres. On va être parsemé dans les quatre coins cardinaux. Quand on est dans le mois de Hadar, même si la Megillah ne sera lue que dans un mois, environ, rappelez-vous de la description de Haman, qui décrit le peuple juif, Yeshua Amechad, Mefouzar ou Mefourad, un peuple dispersé et divisé. Dispersé, je comprends. C'est une dispersion géographique, mais divisée. Haman avait compris que la faiblesse des Juifs, c'est ça. Dans toutes les communautés du monde, notre faiblesse, c'est notre division. En notre retour en Israël, aujourd'hui, notre faiblesse, c'est notre division. Malheureusement, lorsque la politique s'en mêle, c'est parfois tragique. Mon devoir était de vous rappeler à tous combien la fraternité est la condition sine qua non du déroulement et de la conclusion de l'histoire. Et je voulais très brièvement, parce que le métro ferme les heures, et que je voudrais qu'on puisse faire un vrai arbitre avec tous les messieurs. J'aurais voulu vous énumérer. J'ai un livre extraordinaire là-dessus. Toutes les mitzvot que la Torah nous donne sur Ve'ahavta le'reacha kamocha. Vous n'imaginez pas combien dans toutes les relations entre des parents et des enfants, entre un homme et son épouse, entre des frères, entre des hommes, tous les hommes, combien la Torah nous demande et à combien de reprises l'aimer, la veuve, l'orphelin, l'étranger, le faible, le pauvre, tout le monde. La foule de mitzvot que la Torah nous donne va nécessairement, si on est prêt, nous amener les uns les autres à une résultante qui est l'amour. Prenons juste un exemple. La Torah nous dit par exemple, Ifne Aïver Ten Mirchol, tu ne mettras pas d'obstacle devant l'aveugle. On s'imagine mal les uns les autres en train de conduire un aveugle, quelqu'un qui donc ne peut pas voir, sur un poteau, c'est de la démence. Et la Guémara dit, on ne parle pas seulement de ça. On veut dire, donner à quelqu'un qui ne connaît pas le domaine, qui est aveugle, un mauvais conseil, un mauvais renseignement. Déjà là, on sort de l'amour du prochain. La Torah nous demande de rapporter un objet perdu par quelqu'un. Vous savez, on est tous débordés. On marche dans la rue, on trouve un portefeuille. On peut se dire, on a quelle galère. Si je le trouve, il va alors aller à la police, faire une déclaration, et puis attendre qu'il vienne le retrouver. Il y a des conditions précises en halakha. On préfère passer sa route. On ne parle même pas de la non-assistance à personne en danger à laquelle on est confronté. Il y a quelques semaines, un de mes élèves proches a eu son fils à Paris, à Nanterre, renversé, il était en scooter par une voiture. Le malheureux jeune homme a été renversé, gravement blessé. Le conducteur a pris la fuite. Il n'y a eu aucun témoin. Et ce jeune homme, alors que c'était en plein hiver, s'est retrouvé sur le bord de la route en train de perdre son sang abondamment, dans un état de faiblesse incroyable. C'est un nef qu'il ait été retrouvé, hospitalisé. Et bon, Hachem, ses parents, ni agressifs, ni déprimés, sont venus le trouver. Et qu'ils ont eu cette terrible nouvelle. Je les ai remontés et j'ai dit maintenant on va donner un nom à votre fils, un nouveau nom, et on va prier ensemble. Depuis, on n'arrête pas de prier. Il est sorti du danger de vie et de mort. Il récupère peu à peu. Il a été opéré 8 fois. Il avait je ne sais pas combien de fractures, dont une du crâne très grave, notamment les pinières, une horreur. Et bon, Hachem, peu à peu, il se remet. Prendre ces nouvelles régulièrement. Pour donner un exemple, parmi mille, de l'indifférence du monde, il ne faut pas que nous les Juifs, on ressemble à ça. Que nous importe la vie de notre prochain, mais que nous importe le bien de notre prochain, à Shabbat Aïda, que nous importe le kavod, la dignité de notre prochain. C'est très important. que nous importe l'amour de notre prochain. Il faut que on soit tellement proche de l'autre qu'on puisse même plus nous reconnaître. Quand dans la Torah, on va nous dire par exemple, in keset, talvet amim, et te ani ima, la Torah dit, lorsque tu prêteras de l'argent à mon peuple, le pauvre qui est avec toi. Donc ça, je demande, et Rachid le pauvre, la marquée a été ani ima, le pauvre avec toi, pour nous dire comme ça, dit la Gemara, fais comme si c'était toi le pauvre. Vous vous rendez compte? Je vais donner de l'argent à un pauvre, quelqu'un de généreux, bien. Il ne faut pas que je dise tiens. Il faut que je me mette à sa place, que je réalise quelle humiliation c'est de tendre la main. Et que je dis, tu sais, ça nous arrive à tous. Aujourd'hui, toi, tu as besoin de moi, moi, demain, je vais avoir besoin de toi. Se mettre à sa place. J'ai lu un maasé un jour, il y a dans une communauté, un monsieur très riche, qui ne donnait pas du tout de tzedaka. Alors le rav est allé le voir, c'est une communauté dans une ville du Nord, en hiver. Et le rav est allé voir ce monsieur pour essayer de convaincre. Vous savez comment il a fait? Il a frappé à la maison, à la porte de la maison, le monsieur lui ouvre, ah, monsieur Ramin, quel honneur! Entrez, je vous en prie. Le rêve, non, je préfère rester une minute là, j'en ai pas une minute. Et il reste devant la porte, ouverte. Le monsieur qui avait ouvert au bas en bras de chemise, sans l'air froid, s'engouffrait dans la maison. Au bout d'un moment, il dit au rêve, excusez-moi, j'insiste, entrez, il fait froid. Alors le rêve dit, maintenant, tu sais ce que c'est que d'avoir froid, je vais rentrer chez toi. Je suis venu de dire que les gens qui ont froid tous les jours et que je n'ai jamais intéressé à eux. Parce qu'évidemment, tu avais un sort tellement différent. Tu n'as jamais eu froid. Maintenant que tu sais ce que ça veut dire, je vais te parler des pommes de notre âme. C'est ainsi que le rêve a procédé et il a réussi. Parce que chez tous les juifs, il y a un cœur magnifique. Il faut juste trouver la faille, la fissure, le trou par lequel entrer dans ce cœur. Et puis vous trouvez un être magnifique. Toute cette sensibilisation, il faut la vivre. Et il faut la vivre parce que d'abord, nous les rabbinis, nous devons donner l'exemple. Qui ne se souvient pas ce passage de la Torah où Amalek a attaqué Israël et le combat faisait rage entre Yoshua et les soldats juifs, et Amalek. Moshé Rabbeinu ont été montés sur une colline, et avait Aaron et Hur qui tenaient ses mains. Et tout le temps, dit le texte de la Torah, que les bras de Moshé étaient en l'air, Israël gagnait. La Mishnah demande à la Gemara, le Riyadat Shemoshé au sort du Ramam, est-ce les bras de Moshé qui faisaient la guerre? Et le Talmud répond, non. Quand les Juifs tournaient leurs yeux vers Moshé Rabbeinu, et par là même tournaient leur regard vers le ciel, et qui se soumettaient à Dieu, à Yomit Gamberim, ils gagnaient la guerre. Le rôle du chef est d'être simplement une antenne qui draine les énergies de la communauté pour les amener vers un Kadosh Baruch Hu. Et voilà que l'exode de la Torah continue. Il dit Moshé Kevedim, Moshé Rabbeinu n'était pas un juif. Au bout d'un moment, il était un peu fatigué. Alors on lui a amené une pierre sur laquelle il a pu s'asseoir. Et il m'a demandé le chef d'Israël. Un homme de cet âge-là, fatigué, on lui donne pas un fauteuil, au minimum un coussin pour s'asseoir dessus. On lui donne une pierre pour s'asseoir. Et le Talmud répond, c'est Moshé Rabbeinu, qui a voulu une bière. Il a dit quoi? Les enfants combattent dans la vallée, vous voulez que moi, je m'asseye sur une pierre, sur une, un coussin, je m'assois sur une pierre. Il y a un épisode plus récent. C'est déroulé dans une ville, à Brisk, en Lituanie. Là-bas vivait un rabbin très éminent, qui s'appelait Rabbi Chaim, à Brisk. En 1895, fin du XIXe siècle, un incendie terrible ravage la ville de Mir. Toutes les maisons sont brûlées. Celle du Rav est épargnée et la synagogue. Alors évidemment, les gens sont organisés et tous les réfugiés sont allés dans la synagogue pour dormir là-bas. On a installé, autant que personne veut, un couchage de fortune dans la chambre. Le Rav était déjà lui aussi un homme âgé. Toute la journée, il allait de famille en famille pour soutenir les hommes et les femmes. Et le soir, il est allé à la synagogue dormir parmi les réfugiés. Sa famille lui a dit, écoute, sois raisonnable, tu passes ta journée, allez de l'un à l'autre, viens au moins te reposer dans ton lit, ta maison est intacte. Il dit quoi? Vous voudriez que j'aille dormir dans mon lit quand ma communauté dort par terre? Et là, refusé. Chers amis, c'est inspiré de Moshe Rabbeinu. Je cite cet exemple-là parce que le Rav Chaim est un très grand talmudiste que dans les yeshivot, on aurait pu imaginer uniquement comme un grand esprit faisant des chidushim sur la Torah. Cet exemple-là, il m'importe, parce qu'il montre l'homme, avec sa générosité, sa proximité, son amour. Je pourrais donner des exemples à finir. Un dernier pour conclure. Tout le monde a entendu parler de Rabbi Meir. Rabbi Meir était un grand rab, Talmud, et qui, entre autres choses, le vendredi soir, au Beth Amidrash, donnait un shiur. Et la communauté venait écouter son chant. Il y avait beaucoup de monde, notamment des dames. Et un soir de vendredi, donc à cheval, le rab a parlé plus longtemps que prévu. Et donc, les gens sont restés, bien sûr. Il n'y avait pas de métro à l'époque. Et puis, il y a une des dames qui était présente, qui en rentrant chez elle, constate malheureusement que les nérodes, à l'époque il n'y avait pas d'électricité, s'étaient éteints, la maison était plongée dans l'obscurité. Son mari était dans une colère folle et lui dit, où étais-tu? Alors il lui dit, j'étais un chirurg du rab. Qui est ce rab? Rabbi Meir. On lui dit, écoute, je ne veux pas que tu rentres à la maison. Avant que tu ailles chez Rabbi Meir, ce rabbin, et que tu ailles lui cracher au visage. Et puis le mari claque la porte. La malheureuse se retrouve dehors. Elle ne savait pas quoi faire. Cracher sur le visage de Rabbi Meir, le maître d'Israël, même pas. Elle en aurait eu l'audace. Passe le Shabbat, deux, trois. Alors cette dame avait quelques amis qui lui dit, écoute, tu vas pas rester comme ça toute ta vie. Comme Rabbi Meir est un grand homme, va le trouver et l'expliquer. C'est ce qu'elle a fait. Et avec ses amis, cette dame va rencontrer Rabbi Meir. Elle n'a pas dit un mot. Rabbi Meir la voit et il dit comme ça, il la voit tout, pour tout le monde. Et il dit, est-ce qu'il n'y a pas parmi vous quelqu'un qui voudrait me rendre un petit service? J'ai un peu mal aux yeux, j'ai les yeux un peu desséchés. Est-ce que quelqu'un voudrait avoir la gentillesse de me donner un peu de salive pour humecter mes yeux? Alors les femmes disent, vas-y. Cette dame s'approche, et évidemment pour donner la salive, elle a craché sur ses propres mains pour les mettre sur les yeux du rab. Et il dit, encore, il dit maintenant, alors je répète, elle n'avait rien dit. Il dit, retourne chez ton mari. Et dis-lui, j'ai craché sur Rabbi Meir, pas une fois, pas deux fois, mais trois fois. Et Rabbi Meir n'a pas fait cas de son kavod, de sa dignité de rab, pour établir la paix dans un foyer. Vous avez tous entendu parler de Rabbi Shimon Bar Yochai, un grand parmi les grands. On raconte dans le Midrash qu'il y avait un couple qui devait se marier, qui habitait en fait au nord d'Israël, à une ville qui s'appelle Kir, de Beyrouth, et qui lui ont demandé de faire le mariage, de leur avoir fait. Et puis, le temps a passé, et ce couple, malheureusement, n'a pas eu d'enfant. 10 ans s'écoulent, et comme la Torah l'autorise, le couple a décidé de se séparer. Ils ont dit, bon, Dieu n'a pas béni notre union, bon, c'est bien, mais à regret, ils décident de divorcer. Et puis, ils ont une idée. Ils disent, peut-être qu'on va retrouver Rabbi Shimon pour lui en parler. Ils vont voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ils disent, en substance, Rabbi, comme tu nous as mariés, malheureusement, voilà la situation. On a décidé de divorcer. Est-ce que tu veux bien t'occuper de rédiger l'acte de divorce du guet? Le Rav dit, d'accord, je vous demande une chose. Vous acceptez? On accepte, sans avoir quoi. Comme vous êtes marié dans la joie, divorcé dans la joie. Vous êtes marié, vous avez fait une fête, un dîner. Faites, vous voulez divorcer quand? Demain? Demain. Faites ce soir un banquet. Et c'est ce que le couple, se soumettant à la proposition du Rav, un peu étrange, décide de faire un grand repas et donc de faire entre guillemets une fête. Et pendant le repas, le mari boit un peu de vin et s'endort. Mais avant qu'il s'endorme, il dit à sa femme, écoute, comme nous nous quittons à l'amiable, je t'autorise à prendre de la maison ici ce que tu as de plus cher. Le mari s'était endormi sur son lit. Et voilà que le lendemain matin, il avait cuvé son vin, il se réveille dans la maison de son beau-père. Il est étonné, il se demande ce qui se passe. Et sa femme lui dit, écoute, hier soir, tu m'as dit d'emporter avec moi ce que j'ai de plus cher. Ce que j'ai de plus cher, c'est toi. Alors elle a amené son mari. Rabbi Shimon a été informé de cette issue. Il a fait revenir le couple, il les a bénis et ils ont eu un enfant dans l'air. Mes chers amis, qu'est-ce que je pourrais nous raconter de plus beau que l'attachement pour une grand-mère à la paix en Israël, à l'amour entre les juifs, au foyer harmonieux que nous avons tous le devoir de faire régner en aimant notre femme et notre mari. Aimer, ça veut dire respecter. Respecter, ça veut dire écouter. Ça veut dire, et c'est sa place. Voilà ce que je suis venu vous demander à tous. Je suis sûr que vous allez le faire et qu'en récompense de tout cela, Hachem bénira notre communauté, lui apportera qu'il n'y aura besoin de Bécarot, de Géoulachemam, la délivrance finale, et on se rappellera que c'était entre autres grâce au cours de ce soir.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox www.torah-box.com trois enseignements de judaïsme par des rabbanim différents sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. A bientôt.